Le mot femme est introuvable.
Un homme marchait sur la lune, donc c'était en 69, en juillet 69. Et en dessous, il y avait ma photo. Une femme a dirigé un orchestre. Et moi, j'ai pensé tout bas. Un grand pas pour la femme, mais un petit pas pour l'humanité.
Le podcast qui parle des femmes et qui fait parler des femmes du monde de la musique. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours Flor Benguigui qui vous parle et vous êtes dans Chercher la femme à la recherche des femmes oubliées de l'industrie de la musique. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la foutue Saint-Valentin. Alors, une fois n'est pas coutume, on va sauter dedans à pieds joints et on va parler des couples dans la musique. D'après les chiffres, 14% des couples se forment au travail, et ça vaut sûrement aussi pour l'industrie de la musique, car quand on y réfléchit deux secondes, on en connaît des tas. Des couples de musiciens-musiciennes, comme France Gall et Michel Berger, avec Tina Turner, Beyoncé et Jay-Z, des couples de techniciens et techniciennes, des couples de manageuses et managers, des couples d'auteuristes et de compositeuristes, des mélanges de tout ça. La preuve en est qu'au cours de ce podcast, j'ai maintes fois évoqué des couples dans la musique, par exemple dans les épisodes sur les autrices et compositrices qui écrivaient parfois en tandem avec leur mari, mais aussi celui sur les bassistes avec l'histoire de Tina Weymouth qui a monté Tom Tom Club avec son mari, ou encore j'ai survolé celle de Phil Spector, aussi nommé ici Super Connard, et de l'enfer qu'il a fait vivre à sa femme, la jeune chanteuse Ronnie Spector. Car oui, ces histoires de couples dans la musique, c'est parfois pour le meilleur, mais souvent, quand même, pour le pire. Car le fait de partager une œuvre, une scène, une carrière suppose des contrats, des droits et une relation de travail avec des limites, ce qui a tendance à être un petit peu oublié quand on doit partager tout ça avec la personne qu'on aime, et si à ça on ajoute de l'emprise, une différence d'âge ou d'expérience, du slut-shaming, un bon syndrome de l'imposteur ou de l'infirmière, ou les deux, et de la charge mentale non partagée, donne un bon petit cocktail explosif de la descente aux enfers. Et surtout, bizarrement, dans les couples hétérosexuels, c'est quasiment toujours la femme qui trinque. Aujourd'hui, on va essayer de remettre en lumière ces histoires de femmes que la carrière de leur partenaire a malheureusement effacées ou malmenées. Il y en a des tas, des histoires, donc je vous en ai choisi certaines, et pour pas trop casser l'ambiance, promis, j'ai pas que des histoires d'amour qui finissent trop mal. On commence en Angleterre, à Londres, en 1969. Une jeune américaine d'à peine 20 ans, nommée Angie, débarque à Londres, se trouve un travail chez Mercury Records et se rend compte que son plan cul de l'époque, qui travaille en label, couche aussi avec David Bowie. Alors déjà, pas mal, bien joué, parce que c'est quoi les chances, sérieux? Le type en question l'emmène au concert de Bowie à Roundhouse. Bon, c'est le début de sa carrière, mais Bowie est déjà particulièrement sublime. Angie tombe sous le charme, et lorsqu'elle le rencontre à l'after party chez King Crimson, hop, elle rentre avec lui. Efficace, la Angie. Au début, c'est uniquement du sexe. Et puis un jour, David tombe malade et lui demande de s'occuper de lui. Il lui fait écouter ses cassettes et elle commence à entrevoir la facette un peu mystique du personnage. Angie lui confie alors croire aux martiens et à d'autres trucs un peu chelous. Si David était déjà persuadé d'avoir vu des ovnis étant petit, Angie le pousse encore plus vers la science-fiction et le persuade qu'il est lui-même une sorte d'alien dans un corps d'humain. Du coup, David commence à croire véritablement qu'il se fait stalker par les martiens à cette époque, comme le raconte le guitariste de son groupe. Bon, complètement chez père, mais en tout cas, ils avaient l'air de s'être bien trouvés, les deux. Assez vite, ils emménagent ensemble dans une maison victorienne de la banlieue de Londres, nommée Haddon Hall, avec plein d'autres artistes et musiciens, et Angie commence à conseiller David sur beaucoup d'aspects de sa musique, à l'accompagner au rendez-vous avec les labels pour faire le bad cop, et elle finit par lui proposer un deal de power couple. À eux deux, il s'occupe de le faire devenir une rockstar, et après, c'est son tour, à elle, en tant qu'actrice. « Mais c'est ok si je suis pas amoureux de toi ?» lui demande David. « I can deal with that », répond Angie. Bon, et accessoirement, elle a aussi besoin d'un visa pour pouvoir vivre en Angleterre. Ils se marient, mais conservent leur relation libre. D'ailleurs, comme ils sont tous les deux bisexuels, ils partagent parfois leurs amants et amantes. Et ils ont un fils nommé Zoe. « Iggy ou Ziggy pour mon nom de scène, tu penses ?» lui demande David un dimanche après-midi en 71. C'est ainsi que David Bowie décide d'aller à fond dans la direction science-fiction glam que lui a conseillé Angie et qu'il crée Ziggy Stardust and the Spiders from Mars en 1972.
There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky.
Angie a conscience de l'importance du show et qu'une nouvelle page pourrait se tourner, qu'il ne s'agit pas seulement que la musique soit bonne, mais que le spectacle soit inoubliable. Elle vérifie le son, valide les chorégraphies de David avec lui, mais elle s'occupe aussi de toute l'imposante et très théâtrale création lumière, et surtout des costumes de scène, du maquillage. C'est elle qui pousse Bowie vers l'ambiguïté sexuelle, vers cette teinture rouge-orangée et les tenues de scène flamboyantes. Angie va acheter tous les tissus les plus fous et shiny de tout Londres et coud les costumes de tout le groupe au sous-sol de Haddon Hall. Et ça va créer la légende. Le premier concert au Roundhouse à Londres que donne Ziggy Stardust and the Spiders from Mars est considéré comme le premier concert de glam rock ever, voire même un concert précurseur. Mark Bolan, de T-Rex, était d'ailleurs dans la salle ce soir-là, bien avant sa propre phase glam, et il en a pris plein les yeux. David débarque en Rainbow Man, en lurex, avec des bottes de pirate, et son groupe tout d'or et d'argent vêtu. Angie constitue également toute la team autour de David, grâce à elle, l'équipe est enfin suffisamment solide pour tourner. C'est à ce moment-là que David, qui surnomme Angie Star, lui écrit The Prettiest Star en 1973. The prettiest star. Staying back in your memory, all the movies in the past. Puis, lorsque David atteint le sommet et qu'Angie utilise tout son temps pour l'accompagner en tournée et confectionner son image, Angie se dit que c'est bon. Ils peuvent passer à la partie 2 du plan, sa carrière d'actrice. Pas vrai? Hein?
Allô?
Bon. Évidemment, dans les années 70, ça part en sucette. Trop de drogue, trop de dépenses, ils vivent bien au-dessus de leurs moyens, et des délires franchement limites. David sombre dans sa période assez horrible du Thin White Duke, qu'il décrit lui-même comme un surhomme arien, sans émotion, où il délaisse les habits flamboyants pour des vêtements conventionnels et est fasciné par l'occultisme et le fascisme. Il fait des déclarations complètement lunaires sur Adolf Hitler, qui serait selon lui la première rockstar de l'histoire. Je vous passe les détails, mais il admet bien plus tard avoir traversé la période la plus sombre de sa vie en raison d'une consommation, je cite, « astronomique de cocaïne et d'autres drogues », et il condamne ses propos et son comportement. Angie Bowie raconte aussi dans son bouquin, cette fois, où ils doivent exorciser la piscine de leur propriété à LA, qui est d'après David habitée par le diable en personne. Avant de se faire une bonne petite soirée coke, tranquille. Bon, après tout ça, bien sûr, c'est pas étonnant que leur mariage sente le roussi. Angie et David divorcent en 1980. Angie laisse la garde de son fils à David, pensant que ça va l'aider à se remettre dans le droit chemin. Alors là, j'ai juste pas trop compris la logique de laisser un enfant tout seul à son père drogué et complètement en roue libre, mais bon. Et David donne 300 000 balles à Angie pour qu'elle se taise pendant 10 ans. Elle sortira un livre 13 ans plus tard dans lequel elle lui taille un sacré costard et pas en lurex cette fois-ci. Après son divorce, elle garde le nom de Bowie, ce qu'énormément de fans lui reprochent alors qu'elle a aidé à créer ce nom pendant presque une décennie et qu'elle a pu le faire en mettant en parenthèse sa propre carrière. Après leur divorce, Angie est boudée par toute l'industrie et ne parviendra même pas à continuer à travailler dans l'industrie du spectacle et raconte avoir considéré le suicide. C'est là qu'elle devient peu à peu autrice et journaliste spécialiste des questions de genre. Mais aujourd'hui, tout le monde ignore son nom et le rôle qu'elle a eu dans la carrière de David Bowie. La prochaine femme dont je vais vous parler s'est aussi battue anonymement pour la carrière de son mari, dans un tout autre registre. Faisons un petit retour dans le temps. Rien ne prédestinait Sue Graham, jeune fille travaillant dans un magazine, née dans une famille bourgeoise à Chicago en 1930, et Charles Mingus, contrebassiste de jazz afro-américain, né dans une famille très modeste de la banlieue de LA, à se rencontrer un jour. Pourtant, lorsqu'elle l'entend jouer dans un club de New York au milieu des années 60, Sue tombe sous le charme. Elle commence par être son amie, sa manageuse, sa confidente, son agent et son soutien émotionnel. Puis ils se marient en 66 dans une cérémonie pas vraiment validée par la Fédé, avec le poète Allen Ginsberg en guise de prêtre, et se marieront pour de vrai 10 ans plus tard. Sue boucle les concerts de son mari, arrange sa vie et essaye de le sortir des drogues qui font ravage à l'époque. Je dis bien essaye. Mais un an après leur mariage, en 1975, Charles apprend qu'il a la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative incurable. Sue refuse de baisser les bras face à l'absence de traitement et elle se renseigne sur tous les traitements expérimentaux possibles et imaginables. Elle emmène Charles au Mexique voir des gourous sur les conseils du saxophoniste Jeremy Legan, trimballe son mari en fauteuil roulant sanglé sur le toit d'un pick-up dans les montagnes escarpées de Cuernavaca, mais il y meurt en janvier 79 à 56 ans. Pour Charles Mingus, c'est la fin et Sue est dévastée. Mais très vite, elle comprend que leur relation professionnelle et sa profonde admiration pour la musique de Charles ne s'arrêtent pas à sa mort. Elle prend en charge tout l'héritage musical de son mari. D'abord, elle lègue tous les documents qui concernent Charles, les partitions, les enregistrements, les correspondances et les photos, à la bibliothèque du Congrès de Washington, ce qui représente à cette époque la plus importante acquisition d'une collection de jazz manuscrite de l'histoire de la bibliothèque. Ensuite, elle s'occupe de publier toutes ses partitions pour que sa musique soit jouée. Puis elle mène une guerre sans merci au pillage de son œuvre et donc à tous les enregistrements pirates des concerts de Mingus en vente dans le commerce. Ce qui représente environ 3 disques sur 4 à l'époque, donc c'est énorme. Mais contre ça, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va au plus simple. Elle vole les disques pirates dans les grands magasins pour pas que les gens les achètent. Problème, solution. Évidemment, elle se fait gauler, sur les Champs-Élysées notamment, en sortant d'une boutique avec dans son sac une pile entière des CD d'un enregistrement pirate d'un concert en France. Et quand le manager du magasin s'apprête à appeler la police, elle lui demande d'appeler aussi les journaux, la télé et surtout tous les magazines de jazz français pour leur dire qu'ils vendaient des disques pirates. Ah oui, bon, d'accord, allez-y, circulez, madame. Elle crée alors le label indépendant Revenge Records, j'adore cette femme, pour sortir les enregistrements légaux de tous les concerts de son mari. Elle s'aperçoit ensuite que sa musique, qui représente environ 300 compositions, n'est plus vraiment jouée, alors elle organise des concerts hommages à Mingus en choisissant soigneusement les musiciens selon les goûts de Charles Mingus. C'est ainsi qu'elle crée et manage le Mingus Dynasty, orchestre à 7 membres, pour lequel elle obtient une résidence au Jazz Standard de New York une fois par semaine pendant 15 ans, à partir de 10 ans après la mort de Mingus. Elle crée le festival Mostly Mingus, et elle crée aussi un big band, le Mingus Big Band, avec lequel elle produit plusieurs albums, dont un gagnera un Grammy en 2011 et 4 autres nominations. Et c'est avec ce big band qu'elle décide de créer une œuvre monumentale qu'a laissée Mingus, une composition de 500 pages, 6 kilos, un beau bébé, pour 31 musiciens, une symphonie en 19 mouvements de 2 heures entre jazz et classique, appelée Epitaph, qu'il n'a jamais entendue de son vivant. Même pas peur, Sue le monte au Lincoln Center de New York en 1989, puis produit leur tournée en 2007. Elle crée aussi une maison d'édition nommée Jazz Workshops pour publier des livres éducatifs autour de la musique de Mingus. Et tout ça alors qu'elle n'est même pas musicienne. Elle refuse tout crédit dans cet incroyable travail de préservation de l'héritage de Mingus et déclare au Boston Globe en 2002 « It keeps itself alive, I just happen to be a passenger ». L'humilité des meufs quand même. Cette humilité qui peut parfois nous être nocive quand on est face aux requins de l'industrie, c'est ce qui s'est passé pour l'immense et si humble Astro Gilberto. La jeune brésilienne Astro Gilberto, née Astrud Weinert, est secrétaire au ministère de l'Agriculture lorsqu'elle épouse à 19 ans, en 1959, le chanteur et guitariste brésilien João Gilberto, qu'on considère comme l'inventeur de la bossa nova, de 9 ans son aîné. Elle part aux États-Unis avec lui. Elle aimerait beaucoup être chanteuse, mais n'a jamais osé franchir le pas, et un jour, alors qu'elle n'a que 22 ans, son mari lui propose de l'accompagner en studio à New York, où il enregistrait avec le pianiste Antonio Carlos Jobim et le saxophoniste Stan Getz. Apparemment, il a une petite surprise pour elle. Jobim et le compositeur Vinicius de Moraes venaient de composer le morceau Garota de Ipanema, qui parlait de leur fantasme sur une jeune femme qui passait souvent devant le bar où ces deux-là étaient tout le temps fourrés sur la plage d'Ipanema, une jeune adolescente nommée Eloisa Pinheiro, alors âgée, juste pour rappel, de 17 ans. Et juste pour rappel aussi, Vinicius de Moraes a 62 ans et Jobim 35 ans. Bref, revenons au studio. Le producteur, Creed Taylor, exige que la chanson soit enregistrée le jour même avec un passage en anglais. Or, João parlait anglais à peu près comme Jean-Pierre Raffarin.
Win, the yes, need the no to win, again the no.
Donc Astrud, qui comprend très vite pourquoi son mari l'a invitée, se porte volontaire. Elle avait déjà chanté avec son mari dans de nombreuses soirées à l'époque, mais jamais professionnellement, donc elle a quand même grave les chocottes. Si elle avait su, à ce moment-là, qu'elle serait nominée en tant que meilleure performance vocale de l'année aux Grammys et qu'elle en gagnerait un pour la chanson de l'année, elle se serait peut-être un peu détendue. En studio, elle fait mouche, à tel point qu'il lui demande d'enregistrer dans la foulée un autre titre de l'album, Corcovado. Et ils ont le nez creux, car les deux morceaux seront des hits, mais surtout The Girl From Ipanema deviendra un succès quasi instantanément. Mais dur pour les mâles alpha du studio de reconnaître que c'est la voix d'Astrud qui a propulsé ces morceaux dans la stratosphère des tubes intemporels. En 64, Stan Getz fait une interview pour le magazine anglais Jazz Professional et prétend que c'est lui qui a découvert Astrud et qu'il a tout de suite su que sa voix, innocente et modeste, comme il dit, allait faire sensation. C'était juste une femme au foyer à l'époque, et je l'ai mis sur ce disque parce que je voulais que The Girl From Ipanema soit chantée en anglais et que Joao ne pouvait pas le faire. Ipanema a été un hit, et c'était une chance pour elle. Ok, et c'était une chance juste pour elle. Et toi, par exemple, non. Ok. Rumeur par ailleurs démentie par Astrud qui raconte qu'elle savait en arrivant au studio qu'elle allait chanter à l'initiative de son mari. Joao a d'ailleurs confirmé la version mais n'a pourtant pas levé le petit doigt par la suite pour la défendre. Conscient que la chanson a un gros potentiel, il ressort très rapidement une version avec uniquement la voix d'Astrud en anglais parce que ça fait vendre, assume-t-il. Petite parenthèse d'ailleurs pour mieux resituer le personnage de Stan Getz que, perso, moi j'adorais auparavant. Célèbre saxophoniste de jazz, Getz est par ailleurs connu pour être un sale type dans le milieu. Il a été emprisonné pour possession d'héroïne alors qu'il allait braquer une épicerie à Seattle, par exemple. Il est connu pour traumatiser et humilier les gens autour de lui. Et plusieurs de ses ex-femmes ont témoigné publiquement pour abus. Pour vous donner une petite idée de la réputation du type, lorsque Stan Getz s'était fait opérer du cœur, le tromboniste Bob Brookmeyer, qui avait longuement travaillé avec lui, avait demandé « Ah super, ils en ont mis un du coup ?» Voilà. Donc cet adorable petit chouloulou de Stan Getz se vantait d'avoir rendu Astrud célèbre, mais il est surtout tout de suite intervenu dès qu'il a compris que le morceau allait être un énorme succès. Astrud n'avait toujours pas été payé pour la session lorsque le morceau était déjà en tête des ventes. La secrétaire du producteur Creed Taylor, Betsy, reçoit alors un appel de Stan Getz, anxieux, qui souhaite parler à Creed du morceau. Quand il le rappelle un peu plus tard, Creed pense qu'il voulait discuter de la part des royalties d'Astrud, dont il n'avait pas encore discuté, mais en fait, Stan Getz l'appelait pour s'assurer qu'elle n'aurait vraiment, absolument rien. Joao, son mari, a été payé 23 000 dollars pour cet album, et Getz 1 million de dollars, avec lequel il s'achète un manoir de 23 chambres à New York. Astrud reçoit un chèque de 120 dollars pour la session d'enregistrement, le cachet minimum. Personne ne bouge. Elle devient cependant très vite reconnue auprès du public comme une grande chanteuse, même si la période est très difficile. Pendant sa tournée en Europe, son mariage s'effondre. Évidemment, la presse lui rejette la faute dessus, alors que c'est Joao, son mari, qui a une liaison avec la chanteuse brésilienne Miúcha. Astrud et Joao divorcent en 64, au milieu de la tournée américaine qu'elle accepte à contre-cœur de faire avec Getz à seulement 24 ans, avec son enfant en bas âge. C'était une période difficile, raconte-t-elle. En plus d'être au milieu d'une séparation et de devoir assumer les responsabilités d'une mère célibataire et d'une carrière naissante, je devais aussi gérer le fait d'être toute seule pour la première fois de ma vie, dans un pays étranger, voyageant avec mon bébé, avec des difficultés financières, et évidemment, complètement naïve. Je ne connaissais rien au show business, j'avais peur d'être sur scène et de tout le milieu. Stan Getz la paye des clopinettes et lui fait globalement vivre un enfer, et se dédouane en disant « Je la mettais en valeur sur scène, elle avait toujours droit à beaucoup d'applaudissements. » Il ne s'oppose en rien à l'objectivation dont elle est victime dans la presse de l'époque, parce que ça l'arrange bien pour remplir les salles, un des journaux écrivant par exemple « Elle évoque le rêve éveillé de tout homme hétéro, d'une femme exotique et soumise en bikini. » Pardon. Heureusement, Astrud parvient à quitter son groupe et à produire des albums solo, pour lesquels elle ne sera jamais vraiment reconnue en qualité de productrice, et elle se retrouvera toujours dans des compilations avec Getz et son ex-mari, cantonnée à son statut de femme d'eux, malgré ses nombreuses collaborations avec des artistes comme Chet Baker, Étienne Daho ou Quincy Jones. Astrud Gilberto restera très marqué par la cruauté des hommes de l'industrie et quittera la scène assez tôt, sans regret. Elle a toujours été très boudée par le Brésil, son pays, ce qui la rendait très triste, alors que Joao y a été érigé en héros national. Elle meurt en 2023 à Philadelphie, après avoir consacré les dernières années de sa vie à la défense des animaux, un peu comme Brigitte Bardot, mais en moins de droite. Une autre artiste merveilleuse a fini sa vie à l'abri des projecteurs après avoir mis sa carrière entre parenthèses pour sa célèbre partenaire. Si elles naissent toutes les deux en 1939, rien ne destinait ces deux femmes à se rencontrer un jour. La première s'appelle Mary O'Brien et elle naît dans la banlieue de Londres, dans une famille irlandaise plutôt aisée et coincée du cul, amatrice de musique, qui l'envoie à l'école catholique, mais elle passe son temps à jouer au foot dans la poussière avec les garçons, ce qui lui vaut le surnom de Dusty. Elle commence à chanter très tôt dans des comédies musicales avec son frère et devient une superstar internationale à 24 ans avec son tube « I only want to be with you » et surtout avec sa choucroute de cheveux blonds inoubliable. Vous l'aurez reconnu, c'est Dusty Springfield, aussi connu pour ce titre. L'autre femme s'appelle Norma Taniga. Ah et là, personne connaît son nom. Changement total de décor, Norma est une femme racisée, queer, qui naît en Californie, d'un milieu modeste. Son père philippin est chef de fanfare chez les Marines et sa mère est panaméenne et prof d'anglais. Elle fait l'école polytechnique, puis est diplômée d'art plastique. Elle est peintre, mais fait aussi de la musique, donne des cours de guitare, des récitals de piano classique et écrit des chansons engagées. Elle s'installe à New York à la vingtaine et devient activiste contre la guerre du Vietnam, proche de Bob Dylan et de la contre-culture, et chante dans les hôpitaux psychiatriques. Elle est repérée par le producteur des Four Seasons, Herb Bernstein, qui trouve ses chansons, je cite, « toutes plus bizarres les unes que les autres », mais qui voit le potentiel de Norma et produit son premier album. Norma connaît un petit succès grâce à son titre « Walking My Cat Named Dog », aux paroles très étranges pour de la folk de l'époque. Ajoutons aussi que le fait que Norma soit une femme racisée, queer, fait beaucoup de bien à la scène folk de l'époque, qui est quand même en grande majorité blanche et straight. Vous connaissez d'ailleurs peut-être aussi sa chanson You're Dead, qui est une référence sarcastique à la lutte de Norma pour être une artiste dans la scène new-yorkaise ultra compétitive de l'époque, chanson qui est ressortie d'un seul coup des limbes, car utilisée en générique dans la géniale série What We Do in the Shadows. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. Et pourtant, Dusty Springfield et Norma Taniga se rencontrent lors d'une coupure de courant dans les studios de la BBC à Manchester, alors qu'elles ont 27 ans. Dusty est déjà super connue à l'époque et a une réputation de chanteuse élégante et discrète, alors qu'elle est bien plus extravagante, fun et sexy dans la vraie vie. Les deux femmes sympathisent, mais Norma rentre aux États-Unis et Dusty, à des dizaines de milliers de kilomètres de là, commence à l'appeler régulièrement. Puis, lorsque la facture de téléphone atteint le PIB de la Slovénie, elle décide d'aller la voir à New York. Puis, de fil en aiguille, elle tombe amoureuse et Dusty arrive à convaincre Norma de venir habiter avec elle à Londres, ce qui n'est pas vraiment très difficile car Londres est carrément plus safe à l'époque pour une femme racisée. Norma met alors sa carrière en pause pour Dusty. Elle lui écrit des chansons, parfois seule, comme The Color of Your Eyes. How I miss loving you. Still I can't remember. Parfois co-signé avec Dan White ou même Antonio Carlos Jobim, comme Come for a Dream. Norma conseille Dusty sur à peu près tout et la protège de tous les requins de l'industrie qui rôdent autour, car il y en a pas mal, et surtout, les deux mènent la grande vie. Dusty est très dépensière et changeante, mais elle finit par acheter une grande maison de 7 chambres à Londres et confie toute la rénovation et la décoration à Norma, qui décide de repeindre tous les murs en rose et violet, ok, avec un immense portrait non terminé de Dusty, ok, et y installe son atelier de peinture. À l'époque, la société étant très conservatrice et puritaine, c'était très dangereux d'être ouvertement gay, surtout dans le show business. Une ancienne « colocataire », entre guillemets, de Dusty Springfield, autrice pour le Hollywood Reporter, avait par exemple été forcée d'épouser un homme après avoir habité avec Dusty pour éviter le scandale, ce qui était un arrangement tristement courant pour l'époque. Pour ne pas éveiller les soupçons et surtout garantir leur sécurité, Norma est donc la colocataire de Dusty, son assistante personnelle ou sa secrétaire, et toutes les deux sont connues dans tout Londres pour organiser les soirées les plus dingues. Mais Dusty est très colérique, infidèle et très focalisé sur la célébrité, alors que Norma ne rêve que de l'inverse, faire de l'art par amour de l'art, elle se fiche complètement du succès. Elle était une chanteuse et pas moi, résumera plus tard Norma. La musique, c'est pour le plaisir, je n'ai jamais été très douée pour le show business. Avant de quitter Dusty et de repartir en Californie, elle enregistre en 71 l'album I Don't Think It Will Hurt If You Smile, qui aurait pu être dédié à Anna Wintour, album bourré de références à Dusty et à leur vie décalée. L'album sort uniquement en Angleterre et sera un flop total, mais ça lui est égal. De retour aux États-Unis, elle devient percussionniste de session, chercheuse en musique expérimentale, elle s'engage pour la défense des droits LGBTQIA+, et des immigrés, auxquels elle donne des cours d'anglais. Et c'est également une peintre prolifique toute sa vie. Elle continue à appeler Dusty très souvent et à la soutenir, même quand Dusty commence à boire énormément, même quand Dusty épouse une femme qu'elle a rencontrée aux Alcooliques Anonymes, même quand des années plus tard, Dusty se retrouve défigurée à l'hôpital après une dispute avec sa compagne, et même quand, alors qu'elle prépare son grand comeback, Dusty apprend qu'elle a un cancer et qu'elle va mourir. Le jour de sa mort, alors que tous les journalistes tentent de connaître la nature de leur relation restée secrète, Norma reste silencieuse, puis elle leur dit « She heard me ». Et je voudrais finir sur cette phrase de Norma Taniga parce que l'amour et la musique, c'est finalement une affaire d'écoute. Et si on sait écouter, ça peut aussi bien se passer. On en discutera d'ailleurs ce soir, le 14 février, lors de la table ronde de la nuit Chercher la femme spéciale Saint-Valentin, si vous passez par là. Et si vous voulez creuser le sujet, je vous recommande entre autres l'épisode 3 de Musique non féminin d'Aliette Delalleux sur Lil Hardin Armstrong, ou l'épisode de Pionnière de Clémentine Spiller sur Betty Davis, ou encore le compte Insta de Manon Bril qui raconte souvent les histoires de femmes qui ont sacrifié leur carrière pour celle de leur mec. Cherchez les femmes, écoutez-les, donnez-leur cette place qu'elles méritent. Et prenez soin de vous quand même aussi. Bisous.
Cherchez la femme, cherchez la femme.